Oui, bonjour Jean-Pierre Saint-Souplet, bonjour à toute l'équipe. Bon, je vais encore aller, une fois de plus, parce que là, en ce moment, on est en train d'entendre nucléaire, 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 nucléaire. C'est la seule énergie qui soit constante. Non, je suis désolé, on a 70% de la planète, c'est de l'océan, de la mer qui bouge. Et on a ce qu'on appelle les marées motrices. Et il y a un système anglais aussi qui a été inventé, qui sont des espèces de pompes. Une partie est fixe au sol, au fond de l'eau, et l'autre partie est mobile et bouge avec la houle. Or, je n'ai jamais vu véritablement de houle s'arrêter pendant des mois et des mois. Je n'ai jamais vu l'océan arrêter d'avoir des marées, etc. Donc on arrête de nous dire que seul le nucléaire et l'énergie sur laquelle on peut compter en appuyant sur un bouton et on aura automatiquement le système. Non, merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Sophie, alias Madame Vert de Terre. Je vous appelle depuis Paris. Je vous appelle suite à la magnifique émission hier avec Marc-André Sellos sur le sol. Et vous dire que la ville de Saclay propose, dans le cadre de la Semaine de la Science, une représentation de Dieu, Darwin, Marcel et moi, un spectacle sur le ver de terre et son rôle de créateur de sol. Samedi 16 octobre à 20h30 à l'espace InnoVentura. L'entrée est libre. Le spectacle est plutôt pour un public adulte, mais des adolescents et des enfants éveillés pourront l'apprécier. La réservation se fait sur saclay.festik.net. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a 150 places. Au revoir.
Bonjour, c'est Guy de Mirecourt. Un circuit automobile est en cours de construction près de Mirecourt, petite ville des Vosges. Sur un terrain de 47 hectares, dont 20 de terres agricoles, est prévue une piste asphaltée de 3,7 km de long et 12 mètres de large, soit environ 5 hectares de bitume. Ce projet de circuit, soutenu dès le début avec enthousiasme par les collectivités locales, a suivi les étapes d'approbation réglementaire, lesquelles se sont achevées par l'octroi du permis d'aménager. Vosges Nature Environnement, qui soutient le collectif de riverains, au nom duquel je parlais ici, met en doute la légalité du permis et a donc engagé des procédures en justice qui sont actuellement à l'instruction. Alors que l'équipement de loisirs que constitue un circuit automobile concentre tout ce qu'il y a de mauvais pour l'environnement, alors que l'urgence climatique n'est plus contestée par quiconque, les élus vosgiens préfèrent mettre en avant l'activité économique et la création d'emplois. Pour en savoir plus, vous pouvez aller à la page Facebook Collectif Coupe Circuit Mirecourt. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis sur Libourne, en Gironde, et c'était pour répondre à l'appel que je viens d'entendre là à propos des vols de grues. Nous les avons vus dimanche après-midi, juste en haut de chez nous. Il va y en avoir, peut-être une vingtaine ou une trentaine, je ne sais pas, mais il y en avait très peu, mais on les a entendus, et moi je les adore, et je surveille toujours la migration. Je pense qu'on est sur un couloir où il y a pas mal de vols qui passent. J'espère qu'il fera beau et qu'elles pourront continuer leur route tranquillement. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Aujourd'hui démarre au Musée de l'Homme à Paris une nouvelle exposition qui explore les frontières de l'humain ou comment notre espèce, depuis la nuit des temps, essaye de dépasser les limites que sa biologie semble lui avoir imposées. Dans un environnement de plus en plus technologique, d'autres formes d'humains sont désormais possibles et que nous soyons réparés, augmentés, améliorés ou reconstruits, eh bien nous avons à notre disposition tout un arsenal nous permettant d'échapper aux contraintes de notre physique de primate bipède. Mais jusqu'où pouvons-nous aller ? Le thème de cette expo, eh bien, nous questionne individuellement et collectivement sur ce que nous sommes et sur les choix éthiques et philosophiques auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humains et humanité. C'est cette frontière, ces limites que nous allons explorer avec nos invités, commissaires scientifiques de l'exposition, Evelyne Heyer et Frédéric Schluss. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue Evelyne Heyer, très heureux de vous retrouver. Vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, directrice du laboratoire d'éco-anthropologie du Musée de l'Homme. Et puis à vos côtés donc Frédéric Schluss, ethnologue, professeur au MNHN et directrice du département Homme et Environnement. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de ces frontières de l'humain, messages, questions, témoignages des auditeurs sur le site de l'émission, les réseaux sociaux et l'appli France Inter, où vous pouvez nous laisser, vous le savez, très facilement vos notes vocales. 14 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au programme aujourd'hui,
la journée mondiale de l'alimentation, ce sera samedi le 16 octobre. Je rappelle qu'il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.
Voilà pour le sommaire donc de cette émission. Valérie Ayestaraï est aux commandes. Le dossier a été préparé par Chantal de Montagnier, Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Jenabé Sangaré à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Je suis un animal d'exception. Un champion. Un cyborg. Un mutant. Immortel. Aux frontières de l'humain. Une exposition au Musée de l'Homme.
Et ça commence aujourd'hui pour explorer donc ces frontières humaines avec vous, Evelyne Heyer et Frédéric Schluss. Vous êtes donc commissaire scientifique de cette exposition, savoir jusqu'au mois de mai prochain pour ceux qui passent à Paris. Alors ce mot de frontière, d'abord cette notion même de frontière, c'est le mot-clé hein, vraiment de cette expo. Comment est-ce qu'il faut entendre ce mot très exactement, Frédéric Schluss ?
Alors, une frontière, c'est une construction sociale et culturelle à un moment donné, dans une époque donnée. Et donc, c'est collectivement, qu'est-ce qu'on va définir comme étant la frontière qui est indépassable. C'est plutôt un point de vue à la fois moral, éthique et quelquefois qui se regarde aussi d'un point de vue juridique.
Bon, alors pour ceux qui voient l'affiche aux frontières de l'humain, mais qu'est-ce qu'ils vont voir exactement dans l'exposition quand on franchit la porte du Musée de l'Homme, alors exactement ?
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des choses très très différentes parce que cette question très compliquée des frontières de l'humain, elle est appréhendée de multiples manières. L'art nous permet de jeter un regard à la fois qui peut être émouvant, qui peut être effrayant, se poser des questions. Il y a évidemment des contenus scientifiques qui permettent de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est possible et donc de se questionner sur ce qui est souhaitable. Et puis, il y a des multimédias, il y a des jeux, donc tout un arsenal qui permet d'appréhender cette question qui est malgré tout une question complexe.
C'est quoi la question centrale, Evelyne Heyer ? Alors finalement, c'est le propre de l'homme ou c'est plutôt justement la porosité entre l'homme et autre chose ?
Oui, c'est plutôt la porosité. On a des moments charnières dans notre société où il faut réfléchir, savoir jusqu'où on va aller. C'est-à-dire, par exemple, l'homme augmenté, on va aller jusqu'où ? Les manipulations génétiques, on va aller jusqu'où ? Les droits qu'on va donner aux animaux, on va aller jusqu'où ? Donc c'est toutes ces questions. Et l'idée, c'est d'associer des œuvres d'art pour faire ressortir un peu de l'émotion pour aller vers la compréhension et pour s'interroger sur ces questions. Et c'est pour ça que quand on arrive, il y a une grande sculpture qui est un homme déconstruit de...
C'est l'homme fragmenté de Samuel Yal.
Voilà,
et
merci.
C'est une production originale pour le muséum.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'accueil. Hein.
L'accueil. On vous déconstruit.
Exactement.
Carrément. On vous explose en petits morceaux.
On est en pièces. Et après, on essaie de recoller les morceaux
voilà,
tant bien que mal.
Et après, on essaye de recoller en voyant quelle limite on peut avoir pour faire un peu l'homme de demain, notre société d'avenir. Quoi.
Ouais. Mais cette question, le propre de l'homme, elle a un sens encore aujourd'hui, justement, quand on sort de cette exposition, on se dit, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, au fond ?
Ah bah justement, c'est pour ça qu'on a utilisé le thème de frontières, parce que c'est carrément de plus en plus flou. Depuis des dizaines d'années, les éthologues nous montrent les capacités extraordinaires de tous les autres animaux, donc beaucoup de choses qu'on pensait être le propre de l'homme, bah en fait, ça tombe, les animaux font des outils, ils ont un sens de l'esthétique, ils communiquent, etc. Et du coup, c'est intéressant justement de voir comment cette frontière devient floue entre l'homme et l'animal. À la fois, l'homme rentre, je dirais, dans la biodiversité parce que finalement, on est un animal quelque part comme les autres. Et puis en même temps, ce qu'on pensait vraiment très différent, ça ne tient pas la route.
Frédéric Schluss, justement, il y a une question que je me posais. C'est finalement, on voit l'homme qui est capable de comme je disais, de se réparer, de s'augmenter, de se reconstruire. Ça, pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, je pense, les animaux n'ont jamais montré ce type de capacité, non ?
Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il faudrait voir les dernières avancées scientifiques.
En éthologie, justement.
En éthologie, et puis les formes. Alors, on sait qu'il y a de l'automédication chez les grands singes, ça a été montré.
Mais ça, c'est le soin.
Voilà, c'est le soin, c'est pas de la réparation. Est-ce qu'il y a des formes de réparation ? Pour l'instant, moi, j'ai pas en tête de forme de réparation chez les animaux.
Il n'y a pas la salamandre, par exemple, qui sait refaire pousser ses pattes quand elles sont amputées. Je crois qu'il y a des animaux comme
ça. Oui, mais ça se fait tout seul.
C'est biologique.
Oui, c'est biologique.
Et ce n'est pas une augmentation de son état. C'est-à-dire qu'elle revient finalement dans un état dans lequel elle était déjà ?
Ouais, on a jamais vu aucun animal aller réparer une jambe cassée d'un autre, quoi.
Oui, mettre une prothèse qui peut être en bois, en os, on n'a pas vu ça pour l'instant. Et effectivement, alors il y a toute cette réparation du corps abîmé, et puis aussi cette intervention sur le corps, pour la beauté du corps, sur le corps que l'on va façonner, modeler, pour répondre à un certain nombre d'exigences. On pense au surmodelage des crânes, on pense aux pieds, on pense aux lèvres avec les labrés, on pense aux oreilles, aux
cou. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un singe avec un piercing, par exemple.
Non, pour l'instant, non.
Si vous en avez croisé, vous nous appelez, ça nous intéresse.
Appelez-nous tout de suite.
Exactement. On écoute Annie qui nous a laissé un message sur l'application France Inter pour vous.
Bonjour à tous. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est notre capacité à tendre vers plus de liberté dans nos choix de vie, et s'étendre vers plus d'autonomie. L'humain augmenté, connecté, serait dépendant d'un système et d'un pouvoir technocratique qui nous retirerait beaucoup de notre humanité.
Frédéric Chose, vous souhaitez répondre à Annie ? Parce que ce qu'elle décrit, au fond, on est déjà dans le processus, hein ?
Oui, oui. Alors, il y a plusieurs types de réponses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est déjà réparé, augmenté, réparé en tout cas pour le bien d'humain. Quand on pense aux pacemakers, aux implants des pacemakers, quand on pense aux prothèses auditives, aux prothèses maintenant oculaires, on voit bien qu'il y a déjà cette réparation. La réparation aussi, les prothèses. Et depuis la nuit des temps, on a montré sur des vases étrusques, hein, des prothèses en bois quand les jambes étaient coupées, une dent aussi remplacée par un coquillage dans des fouilles archéologiques. Donc cette réparation, elle existe encore. Après, la question que pose cette auditrice, c'est vraiment jusqu'où on va, effectivement, dans cette dépendance et dans cet hybride homme-machine.
Et c'est vraiment une des questions, hein, aussi de l'exposition, précisément, jusqu'où aussi on peut aller en augmentant nos capacités.
D'ailleurs, on met une petite vidéo intéressante qui montre le point de vue de gens qui choisissent ou pas de porter une prothèse. Mais on va pas tout raconter, il faut quand même que les gens viennent voir.
Oui, absolument. Est-ce qu'on se poserait autant de questions sur ce qui fait le propre de l'homme, Evelyne Ayer, si nous étions plus nombreux en nombre d'espèces? Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, enfin, il y a eu beaucoup d'espèces qui ont cohabité ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Homo sapiens. Mais est-ce qu'on se poserait la question si on cohabitait avec d'autres espèces humaines?
C'est une super idée. Oui, je pense vraiment qu'on se poserait d'autres questions. Il y a le fameux roman L'homme dénaturé qui est extraordinaire, qui explore ça. Et peut-être qu'effectivement, un des problèmes de cette frontière, c'est que finalement, les autres espèces humaines le long de la lignée ont toutes disparu. Il n'y a pas très longtemps, hein. Il y a seulement 50 000 ans, on était 5 voire 6 espèces sur la planète.
Oui. On va écouter justement un son sur l'immortalité, hein. C'est l'un des thèmes abordés avec les transhumanistes et on le décrit juste après.
Imaginez que l'humain fusionne avec la machine. C'est ce que prédit Raymond Kurzweil, ingénieur en chef de Google et sorte de gourou du transhumanisme. Pour lui, en 2045, on pourra devenir immortel grâce à la singularité technologique où les super-ordinateurs auront surpassé les humains dans tous les domaines. Par exemple, on pourra reprogrammer nos cellules. Les imprimantes 3D reproduiront des organes humains. On s'injectera des nanoparticules tueuses de cancer. On pourra aussi scanner le contenu de notre cerveau pour le charger sur un ordinateur ou dans un cloud. Pour Jean-Gabriel Ganassia, expert en intelligence artificielle à l'université Pierre et Marie Curie, ça va un peu trop loin.
C'est une fable fondée sur l'idée que l'homme peut dissocier sa conscience de son corps. Un concept plus religieux que scientifique pour tenter d'aller au-delà de la mort.
Evelyne Ayer, nous sommes déjà en train d'essayer de vaincre la mort alors ?
Bah non, enfin je veux dire l'immortalité en dehors de ces rêves un peu fous et illusoires, on sait que c'est quelque part une limite qu'on pourra jamais dépasser, on est mortel et c'est peut-être ça aussi qui fait la richesse de la vie. Donc
vous pouvez l'affirmer vraiment catégoriquement, on ne dépassera jamais cette frontière justement.
Ah ben non, je vois pas du tout comment on pourra la dépasser. Parce que cette idée, par exemple, de télécharger le cerveau, mais c'est complètement ridicule. Ouais. Ce qui est un être humain, c'est vraiment cette interface entre son corps et son cerveau. On peut pas dissocier l'un de l'autre. Ouais. Donc, je ne vois pas du tout comment on peut, de manière réaliste, arriver vraiment à une immortalité qui soit une immortalité de l'individu en tenant compte à la fois de son cerveau et de son corps. encore. Ouais,
mais ça, c'est la voie de la sagesse, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de milliardaires transhumanistes qui n'ont que ces projets-là à la bouche, finalement, hein, Frédéric Schluss.
Oui, qui n'ont que ces projets-là à la bouche, alors parce qu'ils croient dans la technique, ils croient dans le progrès, dans ce que pourra nous apporter les nanotechnologies, les NBIC, nanotechnologie, biologie, intelligence artificielle, sciences cognitives. Mais c'est quand même une question qui est aussi vieille, peut-être, que l'homme, sur cette éternité, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'exposition, puisqu'on revient à cette exposition, il y a à la fois ce discours des transhumanistes qui est mis en parallèle avec, on a choisi le modèle du crâne, de la vanité, et qui permet de voir que dans l'ensemble des sociétés, aux différentes époques, il y a eu cette réflexion sur la mort, cette mort que l'on accompagne, cette communication avec les morts, ce commerce avec les morts, qu'ils soient ancêtres ou ennemis.
Avec la mouche qui vole autour du crâne, évidemment, pour toutes ces collections aussi qui ont réuni justement ces objets. On en parle avec vous, ça commence donc aujourd'hui au Musée de l'Homme, aux frontières de l'humain. C'était Yacomum avec l'As.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Parfait départ dans cette finale du 100 mètres de Berlin. Bolt qui est en tête. Bolt qui est sorti comme un dieu des blocs. Bolt l'emporte. Regardez avec quelle avance. 9,58. C'est pas vrai. Les limites humaines. Il n'y en a plus avec cet homme. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait 9,58? Dites-moi Noël, passez-moi, ce n'est pas possible, il m'a semblé qu'il se relevait encore un peu.
Il s'est relevé.
9,58, vous entendez bien, le record du monde de 9 secondes, 69 centièmes est pulvérisé. C'est un monde, un univers de différence sur 100 mètres. Mais qu'est-ce qu'il nous réserve? Où va-t-il repousser les limites de l'être humain à celui-là? 9 secondes, 58, record du monde, j'ai envie de dire record galactique pour Usain Bolt.
Voilà, excellent extrait parce qu'il y a plein de termes qui sont employés et qui résument vraiment cette exposition aux frontières de l'humain au musée de l'homme, Usain Bolt. Donc ça, c'était en août 2009, lorsqu'il a pulvérisé le record du 100 mètres à Berlin en 9 secondes 58, c'est ça exactement. Et ce commentaire, les limites humaines, il n'y en a plus avec cet homme-là, Evelyne Heyer.
Alors ça justement, c'est ce qu'on interroge, et le sport, c'est génial pour réfléchir aux limites du corps humain, parce que finalement, vous construisez un champion qui va essayer d'être le mieux possible dans une fonction donnée. Et c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui montrent que les meilleurs scores ont tendance à stagner, mais d'un autre côté, on voit bien qu'il y a des innovations d'un seul coup qui peuvent remettre en question tous ces scores. Par exemple, Fosbury qui s'est mis à sauter sur le dos et qui du coup a réexplosé toutes les limites du saut en hauteur.
Ouais, mais il faut par exemple des chaussures, il faut des appareils, des technologies pour cela. C'est vrai que l'humain en lui-même, ses limites sont quasiment indépassables quand même, Frédéric Schultz, non ?
Alors indépassable, c'est la question qu'on se pose, que les scientifiques se posent aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a le corps, la construction du corps, le choix du morphotype. Ouais. Il y a aussi toutes les avancées dans les sciences de la cognition, et puis toutes ces manières en fait d'entraîner mentalement aussi des athlètes avec les neurones miroirs, toutes ces nouvelles avancées. Et puis il y a la technologie et, comme le disait Evelyne, l'invention du style, de quelque chose qui nous permettrait de trouver de nouvelles figures. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est, et qui fait le lien avec l'homme-machine, c'est toutes ces technologies, ces prothèses, par exemple, pour les personnes handicapées, les handisports. Ouais. Et aujourd'hui, on se pose la question, voilà, quel sport avec le handisport qui développe des technologies absolument incroyables et qui pourrait peut-être, à terme, dépasser le plus vite, plus haut, plus fort des valides.
D'ailleurs, il y a une question un peu dérangeante qui est posée dans cette exposition. Si, par exemple, justement, la prothèse devenait un réel avantage sportif, seriez-vous prêt à vous mutiler pour pouvoir en bénéficier? C'est des questions que vous posez dans l'expo.
Oui, c'est les limites, on en fait quoi? Vous faites quoi de toutes ces prothèses et jusqu'où le souhait de gagner des compétitions doit aller? Et ça fait vraiment partie des questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle parce qu'on a les outils actuels.
Mais donc sur franceinter.fr, Brigitte nous demande si les limites dont vous parlez de l'humain finalement ne se résument qu'à la biologie pure.
C'est des limites également mentales pour le sport, en tout cas. On voit bien qu'un grand champion, c'est un champion qui a aussi des capacités mentales pour encaisser, entre guillemets, la difficulté du sport, la pression, pour être capable d'être un compétiteur. On l'a vu cette année, ça a été particulièrement éclairant aux Jeux Olympiques avec l'athlète, la gymnaste Simone Biles, qui a dit à un moment, stop, je n'en peux plus et je n'ai pas envie de continuer. Donc on voit bien qu'il y a aussi à la fois les morphotypes que l'on construit, parce que dans les années 50, souvent on le dit, les rugbyman, ils pesaient 80 kilos, ils mangeaient bien chez eux. Aujourd'hui, c'est des corps qui sont fabriqués en fonction de ce qu'on leur demande. Et donc, il y a le corps, mais il y a aussi le mental et il y a la technologie. Les chaussures, quand on pense aux chaussures, je crois que c'est 5 millions d'euros par an, si je me souviens, qui sont...
500 millions d'euros par Nike. Nike investit 500 millions d'euros par an pour améliorer
la qualité
De ses chaussures.
Mais c'est vrai que dans l'expo, on n'explore pas que les limites du corps. Il y a aussi les limites de ce qu'on peut faire génétiquement dans notre descendance.
On va en parler,
il y a les limites, effectivement, sur notre planète. Voilà.
Mais Evelyne Heyer, ça dit quoi de l'humain, finalement, cette quête de la performance qui caractérise justement le sport de compétition? Parce que de tout temps, l'homme a voulu même sortir d'Afrique, par exemple, pour aller marcher et découvrir de nouveaux territoires. Ça rentre en résonance aussi avec notre histoire humaine,
finalement. Je pense qu'on est un animal curieux qui a une curiosité infinie et qui cherche souvent à en faire plus ou mieux. Alors maintenant, dans l'idée de performance, c'est peut-être ça aussi, mais pas forcément dans la compétition. Quand vous réfléchissez, par exemple, à des musiciens, ils veulent faire mieux et plus, ils sont pas forcément dans la compétition. Donc dans le sport, ça réunit la performance et la compétition. Mais je pense que cette idée de se dépasser, de faire un peu plus, de trouver un meilleur outil, de meilleure manière de chanter, de meilleure manière d'utiliser l'environnement ou des choses comme ça, effectivement, je pense que ça fait partie des grandes spécificités humaines.
Et finalement, la question qui est posée dans l'exposition. Est-ce que c'est pas tout simplement quelles sont les limites du progrès, Frédéric Schluss?
Parce que repousser
ses limites, c'est quand même positif quelque part, effectivement, même de base quand on va explorer. Si Christophe Colomb n'avait pas voulu aller explorer, bon, il s'est trompé de côté, mais je veux dire, on repousse les limites. Il y a un côté positif. La question, c'est à quel moment le progrès, si je dois le dire comme ça, doit s'arrêter.
Alors c'est pas le temps de progrès qui doit s'arrêter, mais c'est qu'est-ce que l'on souhaite pour nous, espèce humaine, en tant qu'individu, et aussi collectivement. En fait, on pourrait très bien imaginer le progrès qui va continuer. Quand on voit les ciseaux moléculaires, c'est quand même une grande avancée. Quand on voit les exosquelettes ou quand on voit les implants, tout ce qu'on peut faire. Après, c'est est-ce que collectivement, on a envie de devenir des hybrides? Et qu'est-ce que serait l'espèce humaine si on n'est plus qu'une machine ou qu'une transformation par la machine? Et ça pose après aussi les questions des inégalités d'accès à ce progrès, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a de très fortes inégalités et que tout le monde n'a pas accès à une prothèse, ne serait-ce que pour se réparer. Ouais. Et donc on aurait peut-être aussi un monde à plusieurs vitesses. C'est ça aussi la question, c'est que individuellement je peux me dire tiens, j'ai envie de ça, mais collectivement, quel monde on construit? Est-ce qu'on a un monde, comme on voit dans la littérature de science-fiction ou dans les films aussi, hein, où vous avez les hommes et femmes beaux, blancs, en haut, généralement, dans le ciel, dans les nuages, dans un air pur, et en dessous, ces travailleurs de l'ombre, laids, petits, et qui accomplissent les pires tâches. Donc c'est ça aussi la question.
Allez, on poursuit la discussion avec bien sûr les messages et réactions des auditrices et auditeurs sur le site de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et à 14h31, Camille Cronier passe au vert.
Avec une date sur le calendrier, c'est le 16 octobre, samedi donc, journée mondiale de l'alimentation. Chaque année, l'ONU veut mobiliser, rappeler que des personnes meurent de faim ou souffrent de malnutrition partout dans le monde. Et la situation s'est aggravée avec la crise sanitaire. Écoutez plutôt Florence Tartanac de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
En 2019, il y avait déjà 690 millions de personnes sous-alimentées, mais après la crise de la Covid-19, la situation est encore pire. On a jusqu'à 811 millions de personnes maintenant qui vivent dans la faim, soit 161 millions de plus qu'en 2019, une augmentation de 20%, ce qui est énorme.
Et parmi ces plus de 800 millions de personnes, hein, ça fait 12 fois la population française pour vous donner une idée, il y a des victimes des conflits comme les Afghans. Voilà, cet homme raconte qu'il n'y a pas de récolte, pas de pluie, pas d'eau, pendant qu'un responsable du programme alimentaire mondial sur place fait le constat.
14 millions de personnes ont aujourd'hui du mal à avoir de la nourriture sur la table. Le prix du blé a augmenté de 25% au cours des derniers mois. Il est très difficile d'envisager l'avenir de cette population. Un avenir où la sécurité alimentaire est assurée, un avenir sans enfants souffrant de malnutrition.
En Éthiopie, 1,7 million de personnes sont menacées en ce moment par la famine dans le nord du pays. Des déplacés en raison cette fois du conflit dans la région du Tigré qui témoignent comme cette mère de famille. Tout le voyage s'est déroulé sous un soleil brûlant et la soif était si angoissante que nous avons été obligés de boire l'eau de pluie du sol, mais ça nous a rendus malades. Et puis la faim touche aussi l'île de Madagascar, premier pays au monde d'après l'ONU et le directeur du programme alimentaire mondial, Amer Daoudi, à être touché à cause du réchauffement climatique.
On en est arrivé là à cause de 5 années consécutives de sécheresse et de changement climatique.
Pas de pluie dans le sud de l'île. La quasi-totalité des cultures ont cramé, hein, et la production de nourriture s'est réduite de 400%. 1,5 million de Malgaches souffrent de la faim, comme cette petite fille de 2 ans, filmée par la chaîne Arte, en train de pleurer dans les bras de sa grand-mère. Elle se calme parce qu'elle mange des criquets, mais elle pleure parce qu'elle a encore faim, raconte la grand-mère, pendant que d'autres mâchouillent toujours à Madagascar de la peau, du cuir de zébu, tanné et bouilli. Et pendant aussi qu'à d'autres endroits, on jette de la nourriture. Les derniers chiffres avancent 931 millions de tonnes d'aliments gaspillés par an, hein, jetés à la poubelle. C'est 20% de ce qui est disponible, sans compter les pertes pendant la production.
On utilise des ressources pour en fait produire des aliments qui sont jetés ou détruits. Donc, c'est pas très rationnel.
Alors, elle reste polie, hein, Florence Tartanac de la FAO, mais en même temps, elle ne pense pas, cela dit, qu'une redistribution de ce qui est gaspillé d'un côté vers ceux qui n'ont rien soit la solution, en tout cas la solution fondamentale. Il s'agit, selon elle, plus d'une rustine. Pour régler le problème de fond, il faut en quelque sorte procéder à un nouvel étalonnage de tout le système.
Si on continue de la même façon qu'on produit l'alimentation, qu'on la consomme, etc., on va dans le mur. Donc, il faut changer. Depuis le consommateur, les agriculteurs, les industries, les gouvernements, qu'il faut aussi changer de politique.
Un changement global que l'ONU résume dans des spots qui seront diffusés partout dans le monde pour la Journée mondiale de l'alimentation. Version française, bien sûr.
Pour tous nous nourrir, il faut changer la manière dont nous cultivons et consommons. Manger local, saisonnier et manger durable.
Version aussi espagnole, anglaise, chinoise, russe et arabe.
Para alimentar a todos, we need to transform the way we grow and consume food.
每个人都可以在保障我们的粮食未来方面发挥作用.
Начните сегодня, питайтесь местной, сезонной и произведенной устойчивым способом едой.
تناول طعاما مستدامة.
Nos actions sont notre avenir, y compris celui des 811 millions de personnes souffrant donc de malnutrition dans le monde.
Camille Cronier-Passauvert, tous les jours, et c'est à réécouter sur la page de la Terre au Carré.
Evelyne, hier, Frédéric Schluss, est-ce que finalement le manque de nourriture, le changement climatique et toutes les activités humaines ne vont pas définir nos propres limites ?
Tout à fait, c'est ce qu'on traite d'ailleurs dans la dernière partie de l'exposition, parce que toutes ces idées qui sont plus au niveau de l'individu ne font sens que sous réserve qu'on arrive à maintenir une planète qui fonctionne. Si on détruit trop la planète, on va arriver vers d'autres urgences et finalement toutes ces questions vont passer, je dirais, un peu plus à l'arrière-plan.
Frédéric Schluss.
Oui, c'est l'habitabilité de la Terre pour les humains et les non-humains. On le voit très bien aujourd'hui avec la question du changement climatique, la question du déclin de la biodiversité. Donc on peut penser que le progrès, effectivement, va nous permettre de vivre plus longtemps, va nous permettre de vivre mieux, mais dans quel environnement ? Et donc là aussi, il y a des choix collectifs à faire pour pouvoir vivre dans sur une planète qui nous permet d'avoir du bien-être. Et tous ensemble aussi. Là aussi, la question des inégalités, parce que sur cette planète, il y a des inégalités écologiques et environnementales qui sont souvent passées sous silence.
Ouais, et tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir justement se transformer ou d'améliorer ses capacités humaines. Nous sommes aux frontières de l'humain cet après-midi dans la Terre au Carré. On y revient dans un instant, juste après Camille Cronier, votre copain Hervé. Voici Permis de construire.
Ah, chouette.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Que je me regarde en face, consacré messieurs. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi je fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux.
Et c'était le permis de construire d'Hervé.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Cette équipe de chercheurs chinois vient-elle de faire naître les premiers bébés génétiquement modifiés ? Loulou et Nana seraient des jumelles nées d'un père séropositif. Les scientifiques auraient introduit dans leur génome une protéine de synthèse les immunisant contre le virus du sida. Pour le responsable de cette expérimentation, c'est une avancée scientifique majeure dans la lutte contre le VIH.
Je porte une grande responsabilité, pas seulement parce que c'est une première scientifique, mais aussi parce que je veux en faire un exemple, montrer que ce genre de choses est possible.
Sauf que pour l'heure, rien ne prouve le succès de cette expérimentation, ni même qu'elle a bien eu lieu. Aucune image de ces supposées jumelles, aucune publication scientifique. L'université qui emploie le professeur Ray explique qu'il est en congé sans solde depuis février et demande une enquête.
Nous sommes profondément choqués par cet incident. Les recherches ont été menées hors du campus en violation de l'éthique académique et de toutes les règles.
Voilà, Lulu et Nana, ces deux petites filles chinoises qui ont défrayé la chronique. C'était en 2018 au moment de l'annonce donc de cette manipulation. On les nommait les bébés OGM, affreux terme, hein, pour parler justement de ces modifications génétiques. Et c'est un des sujets de cette expo aux frontières de l'humain, à voir en ce moment donc au Musée de l'Homme, Evelyne Ayer. Toute la modification, ça fait longtemps maintenant hein, qu'on travaille justement sur la procréation par exemple, et puis la possibilité de modifier le cours des choses.
Tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre de l'expo, on vous place dans un labo futuriste où vous pouvez faire votre enfant à la carte.
On l'a fait d'ailleurs avec l'équipe.
Vous pouvez choisir un ensemble de traits. Ça nous intéressait de voir un peu le public. Qu'est-ce qu'il serait prêt à choisir s'il avait la possibilité de choisir, à modifier, s'il avait la possibilité de modifier. Et c'est vrai qu'on a des nouvelles technologies. Donc, il y a par exemple les ciseaux génétiques qui ont permis la naissance de ces jumelles modifiées génétiquement.
Voilà.
Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus frappantes. Par exemple, le diagnostic prénatal. En gros, de pouvoir faire une échographie, notamment des systèmes d'échographie portables, ont entraîné des avortements sélectifs. On a choisi d'avorter des filles, des fœtus filles, plutôt que garçons. Ce qui fait que sur la planète, les dernières estimations que j'ai vues, il manque 160 millions de filles.
Ouais.
C'est énorme.
Il manque, mais pourquoi? Pour continuer
parce que, par rapport, on attend en moyenne d'avoir un sexe ratio à peu près équilibré à la naissance, autant à peu près de filles que de garçons. Mais il y a des pays où, grâce à ces nouvelles technologies, on peut voir le sexe du fœtus et on peut faire un avortement avant la naissance. Et donc, il y a des pays pour lesquels le rôle masculin est tellement favorisé par rapport au rôle féminin qu'on va choisir d'avorter quand on porte un fœtus féminin. Et il manque 160 millions de filles sur la planète. C'est énorme, c'est vertigineux, quoi. Alors, bien sûr, il y a aussi les ciseaux génétiques qui vont permettre de modifier, et ça va certainement permettre de grandes avancées sur certaines maladies spécifiques, et c'est super. Mais il y a d'autres technologies qui ont un impact beaucoup plus fort. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire de toutes ces technologies-là.
Mais il y a toujours des doubles questions, hein, effectivement, parce qu'on voit la détection, par exemple, d'anomalies in vitro, par exemple, ou in utero, c'est extrêmement intéressant, hein, évidemment. Mais il y a aussi la question de l'eugénisme,
voilà,
de sélectionner l'humain.
C'est ça. Et du coup, justement, on a fait un dispositif, parce qu'on voulait voir s'il y avait des préférences chez nos visiteurs.
Oui.
Est-ce qu'ils préféraient quelqu'un de même couleur de peau, de couleur de peau plus claire, plus foncée, des couleurs des yeux, le sexe des enfants, et après, on leur demande de choisir entre différentes probabilités d'avoir des maladies. Hein. L'homme parfait, malheureusement, n'existe pas. Et pour s'amuser, pour le côté ludique, on a imaginé des
l'invisibilité
ciseaux.
L'invisibilité aussi, on peut accéder à l'invisibilité.
C'est hein. ça, c'est... on a imaginé.
C'est ce qu'on a choisi. Nous,
d'ailleurs. Ouais,
l'écolocation, enfin bref, on s'est amusé à rajouter des trucs un peu fun. Quoi.
Ouais, effectivement, mais c'est très troublant, parce qu'on voit aussi l'immoralité de nos choix.
Et on voit s'afficher les choix du visiteur, des visiteurs en moyenne.
Frédéric Schlous, tout ça, ça pose la question de la fin de la conception naturelle, entre guillemets. Et même le mot naturel, il en devient dérangeant finalement, parce qu'il faut arriver à le définir.
Effectivement, alors, Qu'est-ce qu'une conception naturelle? On peut dire une conception biologique entre un homme et une femme où il n'y a pas de
d'intervention
extérieure. Et puis, comme l'a dit Evelyne, entre les le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, qui pose quand même de vraies questions hein, sur ce que sera notre société de demain dans l'uniformité ou voire dans les mutations. Alors, la question de la procréation, c'est une question complexe en anthropologie, évidemment, hein, puisqu'il y a plein de formes de procréation avec des systèmes où parfois avant le mariage on peut avoir une relation avec un homme qui n'est pas son mari pour assurer une descendance. Il y a des mariages entre femmes, mais évidemment il y a des descendances, la descendance est assurée. Donc il y a toujours eu des constructions sociales à un moment donné de cette procréation. Et en fait là la question, on revient à cette question des frontières floues, c'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. On sait qu'il y a un certain nombre de débats juridiques hein, qui ont établi que le diagnostic préimplantatoire, je crois, c'est
120 maladies.
120 maladies génétiques où on peut interrompre la grossesse, mais pas plus. Et c'est toujours la même question, comment les sociétés, et en l'occurrence là dans cette exposition la nôtre, organisent en fonction des moyens qu'elle a à un moment donné, cette procréation et l'utilisation des différents outils qu'elle a à sa charge.
Mais tout dépend des pays, hein, j'imagine, parce que la législation n'est pas du tout
la même.
Mais
non, parce que nous, aujourd'hui, par exemple, on vend pas les gamètes en France. C'est un don, c'est gratuit. Alors que dans certains pays, c'est extrêmement organisé. Et il y a une vente qui peut atteindre 1000 euros pour avoir le bébé parfait. Et donc, on vous propose un bébé ou un bébé prix Nobel.
Oui, on peut choisir sur catalogue.
Mais ce qui est complètement illusoire, en fait, c'est un mensonge en soi.
Ah bah choisir un gamète sur catalogue, enfin on choisit pas le gamète, on choisit le donneur de gamète. Oui,
Nobel,
c'est un peu ridicule.
C'est totalement ridicule parce que ça fait fi de l'apprentissage.
Puis même il va transmettre que la moitié de son génome, l'autre moitié il vient de la mère, donc.
Donc ça peut mal. Oui, bon. Camille.
Gilles, sur l'application France Inter, pose cette question : qui peut vraiment prédire jusqu'où l'humanité pourra aller alors que les humains ont passé l'essentiel du XXe siècle à repousser les frontières de l'impossible ? Frédéric Schluss.
Qui peut prédire? En fait, nous, ce qu'on pose comme question dans cette exposition, c'est, je reprends, tout est-il possible, tout est-il souhaitable? Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Comme le disait Evelyne, hein, le fait de faire des bébés beaux et intelligents en faisant juste un choix de gamètes, c'est pas possible. L'immortalité, ce n'est pas possible. Donc il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et après, c'est vraiment un choix collectif jusqu'où on veut aller. Mais c'est des choix qui vont être répétés à différents moments de la société. C'est pas aujourd'hui on doit se poser la question et on se la pose hein, dans les débats éthiques, juridiques, les lois de bioéthique, etc. On se la continuera à se la poser en fonction des différentes avancées.
Mais donc, on ne peut pas voir l'avenir sur 200 ans. On aura de nouveaux outils, des nouvelles questions sociales. On vivra certainement dans un monde en décroissance démographique. On n'aura plus les mêmes enjeux. Donc, c'est les questions actuelles.
Ouais. Alors, sur l'hybridation, par exemple, homme-animal, moi, j'ai appris en voyant l'exposition que déjà aux États-Unis en 2019, des chercheurs avaient produit avec succès les premiers chimères homme-singes formés grâce à un transfert de cellules souches humaines dans des autres singes non anthropoïdes. Elles n'ont pas été autorisées au développement que pendant quelques semaines, en tout cas, donc il y a des limites, mais ça veut dire qu'on arrive déjà à le faire.
Attends, on arrive à mélanger des cellules, on n'arrive pas à refaire pousser un organisme au complet. Mais il y a déjà des travaux qui sont faits dans des laboratoires, par exemple, où on essaye de mettre des mutations de Néandertal pour voir à quoi quel développement cellulaire ça ferait. Mais
avec Homo sapiens.
Ouais, c'est ça. Mais on ne peut pas passer, on n'arrive pas au-delà de la culture de la cellule. On n'arrive pas à recréer tout un organisme.
Sauf que est-ce qu'on peut imaginer que secrètement, dans certains laboratoires de certains pays, on ait déjà dépassé ces limites-là?
Vous savez, c'est l'espèce d'énormes projets sur le mammouth, faire revenir des espèces qui ont disparu en faisant une espèce de génome de mammouth qu'on réimplanterait dans certains éléphants pour faire naître des nouveaux mammouths. Donc oui, peut-être que technologiquement, ça fait partie des choses qu'on pourra faire dans 10, 20 ou 30 ans. Mais pourquoi faire? Dans quelles limites? Ça va être des questions de société après.
Ouais.
Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Schlouz, vous parliez des inégalités. Aujourd'hui, il y a l'humain, on va dire tout simplement réparé, soigné. L'humain qui a à nouveau une fourniture, enfin on va lui donner une prothèse, un implant dentaire ou autre chose. Et l'humain augmenté. Donc je sais pas, moi j'imagine Robocop, quoi, grosso modo. Quel est, par rapport aux inégalités, quel est, selon vous, le juste milieu, si je dois le dire comme ça ?
Alors, je pense que là, chacun doit aussi donner son avis. On est dans une société où on doit discuter de ces questions et c'est vraiment le propos de cette exposition. C'est discuter collectivement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et là je vais utiliser un petit peu ce que Philippe Descola, en tant qu'anthropologue, donne comme différentes ontologies, les critères des ontologies, il y a la physicalité. En quoi être humain, c'est aussi physiquement ressembler à quelque chose d'humain. Et donc, on peut se poser la question, à partir de l'homme-machine, à partir de quel moment. Il y a aussi l'intériorité, donc les émotions. Quelles émotions ? Est-ce que c'est, on garde des émotions humaines, on peut imaginer, en ayant un corps transformé avec des exosquelettes, et c'est ces émotions qui nous caractérisent comme être humain. Et puis, il y a ce dont Evelyne vient de parler aussi, tout l'engendrement. Comment est fabriqué l'humain ? Est-ce qu'il est fabriqué de manière naturelle, avec des guillemets, ou est-ce que c'est une fabrique d'humains, une fabrique de clones ou une fabrique mécanique ? Et ces questions-là sont intéressantes à se poser. Et moi, j'ai pas forcément les réponses. Je peux me situer individuellement. Après, en tant que chercheur, c'est différent.
Eh bien, les exosquelettes, on en parlera dans un instant, puisqu'ils viennent de faire leur entrée aussi dans certains métiers. On verra comment on peut les utiliser. Et puis, on poursuit la discussion autour de cette exposition. Ça s'appelle « Frontières de l'humain ». Et c'est en ce moment au Musée de l'Homme, si vous passez évidemment par Paris.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture ? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. L'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien.
Et c'est la voix d'Enzo Enzo, évidemment, avec juste quelqu'un de bien.
France Inter, la Terre au carré.
S'enfile rapidement et se porte comme un sac à dos. Voici l'exosquelette, premier jour de test pour les ouvriers de cette menuiserie.
Ça fait une sensation bizarre, mais c'est vrai que ça m'aide pour porter les choses. C'est direct, il fait le mouvement tout seul.
Mais attention, pas question de le vendre à n'importe qui. L'entreprise de Lalin qui commercialise le robot est vigilante sur l'éthique des entreprises. Il ne s'agit pas de profiter de cet équipement pour surcharger les salariés.
Aujourd'hui, on ne dit pas c'est sur catalogue, vous servez. Non, non, on se déplace dans les entreprises. On fait l'analyse de poste, on va dire oui, c'est fait pour tel et tel et tel poste.
Prochaine étape, courant janvier, des coiffeurs et des paysagistes du Pas-de-Calais devraient aussi tester cet exosquelette. Prix du marché, 5000 euros pièce.
C'est Edouard Romain d'Argent quasiment bientôt qui va débarquer dans les salons. Là, c'était France 3 Hauts-de-France en décembre 2020. L'exosquelette, là, c'est une augmentation momentanée finalement, dans le cadre d'une profession.
Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces exosquelettes, ils résument bien là où on voit les différents champs où il y a ce type d'avancée. Vous avez l'industrie, vous avez l'armée pour faire le soldat extraordinaire, ouais. Vous avez la médecine pour permettre à des gens de marcher qui ne peuvent plus marcher, et surtout, vous avez tous les artistes.
Ouais.
C'est flamboyant comment les artistes s'approprient ces nouvelles technologies.
Frédéric Chousse, il y a des œuvres dérangeantes aussi dans l'exposition hein, qui posent question et qui vraiment choquent intérieurement quand on les voit.
Oui, elles sont là pour ça d'ailleurs.
Ouais. Alors, cet artiste qui s'est greffé une oreille dans le bras,
oui,
par exemple.
Oui, une oreille dans le bras, Stellark, avec des implants qui lui permettent d'avoir des formes de communication aussi. Donc on peut imaginer... Ça nous interroge en fait. On peut imaginer que plus tard, on a tous nos téléphones portables à la main et qu'on n'ait plus besoin. Il y a des puces aussi pour ouvrir sa voiture ou pour sa carte bancaire. On peut très bien imaginer ça.
Voilà. Eh bien, si vous allez voir cette expo, vous aurez matière à réfléchir.
Et une dernière question de Florence qui demande à partir de quel âge on peut apprécier votre exposition.
Oui. Je pense 10 ans, ça va.
10 ans.
10 ans.
Oui. D'accord.
Bon, on va donner un chiffre rond comme ça.
Oui, comme
voilà.
Ça.
Très bien. Bon, ça démarre aujourd'hui en tout cas aux frontières de l'humain. C'est au Musée de l'Homme. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous en parler. Il y a le catalogue de l'exposition aussi qui est très bien fait, qui reprend toutes les œuvres que vous pourrez voir si vous passez par Paris.
Pur, que dit la nature ? Épisode 32.
Et comme tous les mercredis, on vous offre 2 minutes 30 de nature pure, le podcast et vodcast de France Télévisions, avec lequel nous sommes partenaires, expérience sonore inédite d'immersion dans un milieu de la planète dont vous allez pouvoir deviner l'origine et le contexte. La scène que vous allez entendre a été enregistrée par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. C'est parti. Et nous ne vous dirons pas de quoi il s'agit, puisque vous pouvez aller voir la réponse directement sur Pure. Que dit la nature ? C'est le podcast et le vodcast de France TV en partenariat avec La Terre au Carré. Le lien est disponible bien sûr sur la page de l'émission.